Panorama économique.
Les revenus générés par le secteur orifère artisanal de l'Est de la RDC financent la corruption ou alimentent les exactions et les conflits violents plutôt que de contribuer à atténuer la pauvreté que touche la région. Ceci ressort du dernier rapport de Global Witness publié mardi sur l'or de Chabunda dans le Sud Kivu. Les réactions de la société civile et de l'ambassadeur de la Chine à ce sujet dans cette émission. La commission nationale OADA a organisé avec l'appui du programme Essor de la coopération britannique le 4 et le 5 juillet courant un atelier de lancement des travaux de renforcement de capacités doctrinales en droit OADA. Objectif visé, outils, les avocats et autres participants pour être en mesure de rendre des jugements des tribunaux de commerce viables et cela à la portée du grand public. Autre sujet dans cette émission, à Goma, nous revenons sur la hausse du prix de carburant qui est passé de 1100 à 1300 francs congolais. Les usagers et les habitants de Goma ont déploré cette situation qui pourrait avoir des effets d'entraînement sur les prix des autres produits. Pour le président de l'Association des pétroliers du Nord Kivu, les pétroliers ont juste réajusté le prix par rapport à la structure officielle qui n'était pas respectée jusque-là par plusieurs opérateurs du secteur. Voilà pour les titres, les grandes articulations de Panorama économique. Messieurs, dames, bienvenue à la rétrospective de l'actualité économique de la semaine. Je suis Daniel Tambizoli devant le micro. Dieudonné Nyangasa Wanyangasa est à la prise de son. Merci d'être nombreux à l'écoute de ce programme. Il n'y a pas d'invité dans cette émission. Nous revenons essentiellement sur toute l'actualité économique qui a marqué cette semaine qui se termine. Bonjour et bienvenue.
Panorama économique, le dossier.
L'actualité dans le secteur minier a été abondante cette semaine. Commençons d'abord par ce rapport de Global Witness sur l'or de Chabunda dans la province du Sud Kivu. Selon ce rapport, la valeur des gisements d'or que regorge le sous-sol de l'Est de la RDC est estimée à 28 milliards de dollars américains, mais ces richesses aurifères du pays sont depuis très longtemps mal utilisées, convoitées par des groupes armés, des bandits et des élites corrompus. Les revenus générés par le secteur aurifère artisanal de l'Est du Congo ont trop souvent financé la corruption ou alimenté les exactions et les conflits violents plutôt que de contribuer à atténuer la pauvreté qui touche la région. Sophia Pickles est chercheuse à Global Witness. Elle répond aux questions de Nadine Fola sur ce rapport.
Bonjour Madame Sophia.
Bonjour.
Global Witness vient de publier un rapport et dans ce rapport, il est dit que la valeur de l'or dans l'Est de la RDC est estimée à 28 milliards de dollars. Qu'est-ce que vous entendez par l'Est de la RDC et de qui vous tenez ces chiffres de 28 milliards?
Bon, il n'existe aucune évaluation des dépôts aurifères où se fait seulement l'exploitation minière artisanale et à petite échelle à l'Est de la RDC. Alors, pour calculer ces chiffres, nous avons utilisé l'estimation faite en septembre 2012 par les entreprises autorisées à explorer et exploiter les gisements d'or dans les provinces de l'ex-oriental, Maniema, Nord et Sud Kivu, qui ont estimé avaient une total de 26 millions d'onces des réserves d'or mesurées, indiquées ou inférées. Alors, nous avons basé notre calcul sur le prix international de l'or de 38,5 dollars par gramme, qui est le prix moyen pour la période du boom décrit dans notre rapport.
Et toujours dans ce rapport, il est dit c'est une richesse, cette richesse ne profite pas à la population locale. Ce sont plutôt les groupes armés, la société chinoise Kunhu Mining et les autorités corrompues qui en profitent. Comment soutenez-vous de telles déclarations?
Oui, justement, comme vous avez dit, nos recherches, nous avons trouvé qu'ils ont relevé que Kunhu Mining a versé 4 000 dollars à des groupes armés Raimo Tumbuki opérant sur les rives de l'Ubangi et leur a donné deux fusils d'assaut AK-47 pour s'assurer l'accès aux riches gisements aurifères présents dans les lignes de la rivière. Alors, le Global Witness a mené des recherches dans la ville de Chabunda, dans le Sud Kivu, bien sûr, à deux reprises en 2015 et a réalisé par ailleurs des séries d'entretien à Bukavu, le capital du CQU aussi, à trois occasions différentes en 2014 et en 2015. Donc, en total, nous nous sommes entretenus avec plus de 80 personnes ayant participé à la rue et vers l'or chez Bondé était le théâtre. Et parmi les personnes interroguées, il y avait des plongeurs, des travailleurs opérant sur les dragues, des négociants d'or et des entrepreneuses attirées à Chabundé par la rue Valor, ainsi que des habitants de la localité, des représentants des autorités et de la société civile. Nous sommes également entretenus avec un lanceur d'alerte de Kunhu Mining. Et nous avons récolté plus de 200 documents concernant la rue vers l'or à Chabundé. Et finalement, il y avait une excellente publication produite en août 2015 par la plateforme COSOC GEAL, qui est une ONG régionale qui se base à l'est du Congo, qui a soulevé plusieurs questions importantes restées sans réponse sur la rue vers l'or. Le long de l'Ubindi. Et ça, c'était une source d'information complète ici.
De l'argent et deux fusils d'assaut AK-47 remis au groupe armé pour exploiter illicitement l'or de Chabunda. Le rapport de Global Witness cite nommément la société chinoise Kunhu Mining en réaction après la publication ce mardi du rapport de Global Witness dénonçant l'exploitation illégale de l'or dans la rivière Oulindi de Chabunda. La société civile du Sud Kivu a salué cette initiative qui, selon elle, a mis à jour ceux qui financent les groupes armés dans la région et a lancé un appel à la justice congolaise qui doit s'assumer pour réprimer les auteurs de l'activisme des groupes armés à Chabunda dans le Sud Kivu. À ce sujet, la société civile a demandé aux dernières nouvelles qui nous sont parvenues. La société civile de Chabunda a demandé 5 millions d'indemnisation de la part de cette société chinoise qui exploite illicitement de l'or à Chabunda. On écoute le responsable de la société civile au micro d'Emmanuel Elameji Ouakabidi.
À l'issue de cette réunion, nous avons pris les recommandations selon lesquelles pour la société KHM, elle doit suspendre sans délai l'exploitation le long de la rivière Oulindi avec drag, tout en payant 10% du montant produit, cela équivalent à 5 250 000 $ au profit des bénéfices de la population du territoire de Chabunda comme indemnité. Et cela en vertu de l'article 281 du Code minier. Nous avons aussi recommandé au procureur général d'ouvrir une action judiciaire au compte de ces Chinois qui ont alimenté le Raia Mutomboki en armes et en cartouches. Si ces recommandations ne sont pas respectées, en déjà 48 heures, nous serions en train d'organiser d'autres actions de grande envergure, peut-être la semaine prochaine, on peut passer soit à la ville morte, soit à une marche pacifique, afin de respecter nos recommandations.
L'ambassadeur chinois de passage à Bukavu cette semaine a reconnu que quelques Chinois sont impliqués dans cette exploitation illégale, mais il pense qu'il faut plutôt renforcer l'administration au niveau du pays. On écoute l'ambassadeur chinois Wang Tongping au micro de Delphine Amuto.
L'exploitation illégale, ça existe vraiment en RTC, surtout à l'Est. Mais c'est pas l'exploitation illégale seulement des Chinois. Il y a encore d'autres pays, même aussi des Congolais, les Congolais locaux. Tout d'abord, l'RTC, il vaut mieux renforcer l'administration. Pour les étrangers, s'il n'y a pas l'invitation des Congolais, ils ne pourraient pas venir ici. Donc, de chaque côté, il y a des responsabilités. Et pour quelques Chinois seulement, ça je connais un peu, pour l'exploitation illégale. Alors, j'ai déjà discuté avec les autorités congolaises. Comment on va prendre des mesures pour résister à l'exploitation illégale. Donc, je voudrais citer un exemple de la coopération entre les deux pays sur le domaine de l'exploitation de mines. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est comme nous avons déjà fait la coopération gagnant-gagnant.
Toujours dans le secteur de mines, je vous disais, l'actualité a été abondante cette semaine. Les orpailleurs artisanaux de l'or de Bangba, dont l'Ituri bénéficie d'une rallonge de 45 jours pour déguerpir de la concession de Mongwalu Gold Mining, l'ultimatum leur accordé par le ministre de Mines avait expiré en début de semaine. Le ministre des Hydrocarbures, faisant l'intérim de son collègue des Mines, dit avoir accordé cette rallonge, tenant compte des doléances des députés de l'Ituri et des creuseurs artisanaux d'or estimés à plus de 20 000 qui ont sollicité un prolongement de l'ultimatum du ministre de Mines, Martin Kabululu, ultimatum qui a expiré le 4 juillet dernier. Delvin Waïsala nous en dit plus.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30 heure de Kinshasa, Radio Capi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Les autres informations de la semaine, la Commission nationale OADA RDC, avec l'appui du programme Essor de la coopération britannique, a organisé le 4 et le 5 juillet courant un atelier pour lancer les travaux de renforcement de capacité doctrinale en droit OADA. L'atelier visait à outiller les avocats et autres participants, les doter de capacité à rendre des jugements de tribunaux de commerce viables et cela à la portée du grand public. Cela se fera grâce à la publication de tous ces jugements sur le site officiel de l'OADA. On écoute le professeur Roger Massamba, président de la commission nationale OADA RDC, interrogé par Nadine Foulantimba.
La RDC est prise comme un modèle par les autres et est suivie vraiment comme un exemple, y compris quand il s'agit de payer la cotisation. Nous sommes les premiers chaque année et cette année aussi. Mais dans d'autres domaines aussi, le pays est largement félicité. Mais en ce qui concerne la production scientifique, il faut reconnaître que nous avons encore une distance à parcourir par rapport à nos collègues et nos frères du Cameroun. Nous devons suivre leur exemple et c'est ça que nous venons de commencer par ce lancement des ateliers de renforcement des capacités doctrinales. Au Congo, nous avons une crème connue, une crème des scientifiques. Nous avons une matière grise dont on ne mesurera jamais assez la qualité et le poids, éparpillée dans nos provinces. Nous avons maintenant décidé le pari de mobiliser cette matière grise pour faire en sorte que demain, nous soyons le modèle à suivre par nos frères d'Afrique. Et d'ailleurs, il ne s'agit pas d'une compétition, peut-être d'une noble émulation, mais il faut que la qualité de la matière grise, de l'expertise scientifique congolaise soit, mais alors, portée le plus haut possible pour que nous puissions aussi, à cet égard, hisser très loin et haut le drapeau national.
À Goma, le prix du carburant est passé depuis le week-end dernier de 1,1 à 1,3 dollars à la pompe, soit de 1100 à 1300 francs congolais. Cette situation est déplorée sur toute cette semaine par les usagers et les habitants de Goma qui redoutent des conséquences en cascade sur les prix des autres produits. Le président de l'Association des pétroliers du Nord Kivu dit qu'il n'y a pas eu hausse des prix. Les pétroliers, selon lui, ont seulement réajusté le prix par rapport à la structure officielle qui n'était pas jusque-là respectée par les pétroliers. Et toujours à Goma, et comme nous vous l'avions dit jeudi, au moins 7 stations de carburant avaient carrément fermé leurs activités, et cela depuis 2 semaines dans cette ville. Pour certains responsables contactés par votre radio, cette réaction était consécutive à une concurrence qu'ils qualifient de déloyale entretenue par une fraude dans le commerce de carburant. Selon plusieurs sources, une quantité importante de carburant exonéré serait en vente dans la ville de Goma et ceux qui payent leurs taxes exigées disent enregistrer de plus en plus de manques à gagner et sont obligés de fermer leurs activités. C'est ce que nous disait Bernadette Yanki.
Au moins 4 sociétés parmi lesquelles des entreprises routières et une société sucrière fictive représentées chacune par des grands pétroliers de la ville de Goma auraient reçu depuis quelques années des ministères de l'économie, des finances et des hydrocarbures, des exonérations de carburant, et ce carburant exonéré se retrouverait encore vendu dans des stations-service de ces pétroliers. Conséquence, d'une part, le trésor public enregistrerait au niveau de la DGDA et manque à gagner d'au moins 15,6 millions de francs congolais par camion-citerne de 40 litres sur les 200 camions qui entrent chaque mois dans la ville. D'autre part, le prix variait déjà entre 1$ et 1,2 $ le litre à la pompe selon les humeurs des bénéficiaires des exonérations au lieu du prix officiel de 1,3 $ le litre, ce qui réduirait déjà la marge de bénéfice des autres pétroliers obligés aujourd'hui de fermer. Se gardant de reconnaître cette exonération, le président de la Corporation des pétroliers pense que c'est aux seules autorités de trouver la solution. Providence Mouiga.
Un produit exonéré ne peut pas être vendu. Dans la réunion, nous avons abordé ce sujet. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de faire d'abord respecter le prix et demander aux autorités de faire aussi leur travail.
Tous nos efforts pour contacter le ministre de l'économie nationale sur la question restent vains. Goma, Bernardine Yanki, Radio Okapi.
C'est pour rendre opérationnelle la Commission nationale de lutte contre la fraude et la contrebande minière que la CIRGL a organisé jeudi à Goma. Un atelier de 2 jours y avait pris part les membres des services publics, de la société civile, du secteur privé ainsi que les responsables de coopératives minières du Nord et Sud Kivu. Selon Kakese Vinalouémé, coordonnateur national du mécanisme de la CIRGL en RDC, lorsque le trafic des minerais passe par la voie normale, chacun y trouve son compte, ce qui est loin d'être le cas lorsqu'il s'agit de la voie frauduleuse qui prime pour le moment, d'où l'importance de cet atelier qui va aider à déterminer ce qu'il faut faire afin de rendre opérationnelle la commission de lutte contre la fraude minière. Il est au micro de Rosalie Zawadi.
Nous devons vivre de nos mines. Et nous avons ces mines, ce n'est pas pour les autres, c'est pour nous-mêmes. Or, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous avons l'impression que les mines profitent à beaucoup d'autres personnes à l'extérieur qu'à nous-mêmes. Et nous devons être conscients de cela. Nous devons dire que chez nous, la certification de minerais est correcte. La commission de lutte contre la fraude et la contrebande existe. Nous pouvions gagner. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Il y a des voisins, il y a parfois certains individus qui se mettent à marge de la loi. Et ça, on retrouve partout. Ça commence toujours chez nous.
Retour à Kinshasa pour vous annoncer que le ministère de l'économie a désormais un site web officiel. Le ministre Modeste Bahati l'a officiellement présenté au public jeudi à Kinshasa. Selon le ministre de l'économie nationale, le www.mineconomie.gouv.cd a pour vocation d'offrir au public local et international une source officielle d'information sur l'économie de la RDC. Modeste Bahati, sur des propos recueillis par Nadine Foulat.
Je crois qu'il était grand temps que le ministère de l'économie puisse se moderniser, avoir un site web qui permet au public d'accéder à toutes les informations à caractère économique dans notre pays. Comme vous le savez, les investisseurs ont besoin d'être informés, la population a besoin d'être informée et ce site vient justement répondre à cette préoccupation. J'ai entendu des gens dire qu'est-ce qu'on attendait tout ce temps. Moi j'ai dit il n'est jamais tard pour mieux faire. L'essentiel c'est que là, maintenant, nous avons un site web www.mineconomie.gouv.cd qui permet à toute personne, où qu'elle se trouve sur la planète Terre, de pouvoir accéder aux informations. Vous savez qu'il y a des questions qui tiennent à cœur la population, les opérateurs économiques, les chercheurs, les étudiants. En ce qui concerne, ne fût-ce que les statistiques, par exemple, le niveau des prix, le taux de change, le taux de croissance, les différents secteurs d'activité en province, la localisation. Et je crois que là, le site vient répondre à toutes ces préoccupations et je ne peux que me réjouir d'avoir réalisé cette activité qui aujourd'hui est portée au fond baptismal.
Toujours à Kinshasa, la semaine internationale de coopératives et de PME organisée par Africa Femmes Performantes a clôturé ses assises hier vendredi. Cette rencontre a offert du 4 au 8 juillet une opportunité aux PME de la RDC et aux coopératives d'exposer leurs produits, de bénéficier de formations sur l'accès au financement. Le thème choisi était « Accroître notre capacité d'agir ». Au cours de cette semaine internationale, Africa Femmes Performantes a également lancé la coopérative d'épargne de crédit et d'investissement des femmes d'Afrique et de la diaspora. Explication de Madame Patricia Seke, présidente de l'AFP Africa Femmes Performantes.
Africa Femmes Performantes s'est alignée sur le modèle de réussite du premier rassemblement des femmes noires aux États-Unis en 1935 par le docteur Dorothy Irene Hyde. Nos valeurs aujourd'hui se résument à s'unir, s'éduquer, se former, s'informer, s'outiller, s'adapter, s'engager, participer, initier, agir et avoir des droits. Aider les femmes noires actives à briser l'isolement, les sortir de l'ombre et leur faire partager leurs talents au-delà des barrières frontalières et continentales. Après le 5e congrès international des femmes performantes qui s'est tenu à Casablanca au Maroc, les femmes performantes ont décidé, pour réaliser leurs objectifs, de créer la coopérative d'épargne, de crédit et d'investissement des femmes d'Afrique et de la diaspora. Cette semaine d'activité qui nous prépare à l'implantation de la COPEC IFA dans RDC est encadrée par la formation qui nous est dispensée par la Conférence panafricaine coopérative. Africa Femmes Performantes s'est également alignée en responsabilité sociale en créant une ligne de cosmétiques bio, Belle Femme Performante, dont 60% des bénéfices permettront de renforcer l'actif de nos institutions financières et d'être crédible auprès des bailleurs de fonds. Vous pourrez découvrir cette marque lors de la visite des stands après l'ouverture de ces travaux.
Le même lundi, à Lubumbashi, cette fois-ci, l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga avait ouvert sa session extraordinaire de juillet 2016. La cérémonie a eu lieu au siège de cet organe délibérant et, selon son président, il s'agit d'une session qui sera essentiellement consacrée à l'examen et à l'adoption du budget de la province du Haut-Katanga pour les 6 mois à venir. Un budget évalué à plus de 311 milliards de francs congolais. Le point avec Colin Dumas-Moussompo.
Selon le rapporteur de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga qui a fait lecture de ces différents procès-verbaux de la session ordinaire, c'est en vertu de l'article 58 du règlement intérieur de cet organe délibérant que cette session extraordinaire a été convoquée. Elle sera essentiellement consacrée à l'examen et à l'adoption du budget de la province du Haut-Katanga. Ces projets du budget, ajoute le rapporteur, est estimé à plus de 311 milliards de francs congolais. Lors de la présentation la semaine dernière de ce projet du budget devant les honorables députés provinciaux, le gouverneur de la province avait fait savoir que ce budget sera alloué entre autres au paiement des salaires et à d'autres besoins de l'exécutif provincial. Les débats proprement dit auront lieu le jeudi prochain, le temps pour les députés provinciaux de s'imprégner de ces documents. Pourquoi donc traiter de cette question au cours d'une session extraordinaire? La réponse avec Dieudonné Mouelan Sambi, président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga.
Il est permis à chaque assemblée provinciale ou national d'organiser une session extraordinaire.
Il faut noter qu'une fois débattu, le présent projet du budget sera transmis à la commission économico-financière pour une synthèse avant le vote en plénière. Lubumbashi, Colin Djuma Moussompo, Radio Okapi.
À Tchikapa, dans le Kasaï, pendant ce temps, la Fédération des ONG laïques à vocation économique au Congo accuse le Centre d'impôts synthétique de tracasser ses membres dans une déclaration à la presse locale samedi dernier. David Panda avait fustigé la fermeture par la DGI depuis quelques jours des pharmacies et boutiques ayant la dénomination Foleco, cela au motif qu'elles ne disposent pas de numéro d'impôt. André Kambala revient sur les arguments de la Foleco.
D'après le président provincial de cette macrostructure, la Foleco est reconnue par l'ordonnance présidentielle numéro 95-031-2995. Il ajoute que les ONG qui en sont membres sont des ASBL sous la tutelle des ministères des Affaires sociales et de l'économie. C'est ainsi que ces structures jouissent d'une exonération au paiement de quelques taxes et impôts. David Mpanda constate par ailleurs que la Foleco paye régulièrement l'impôt professionnel national IPERNAT depuis 2012 jusqu'à ce jour pour son personnel. Les notes de perception et les déclarations mensuelles sont toujours accompagnées du numéro d'impôt et les bordereaux de versement de la banque sont appuyés par la DGI. Il conclut que la loi 004 régissant les ASBL leur donne le pouvoir d'exercer exercer le commerce pour s'autofinancer. En réaction, la DGI Tshikapa juge illégale la position de la Foleco. Elle reconnaît cette plateforme comme un regroupement des ONG. Pour preuve, selon cette régie financière, quelques membres de la Foleco sont des anciens contribuables. Par conséquent, ils ne devraient pas aujourd'hui se réfugier au sein de la Foleco. De Kananga, André Kambala, Radio Kapi.
La fluctuation du taux de change a mis plusieurs ménages en difficulté dans leur vécu quotidien. À Bukavu, le taux de change du dollar et franc congolais s'est négocié cette semaine selon l'humeur de chaque individu. La Banque centrale du Congo, direction provinciale de Bukavu, avait affiché à sa valve le matin du lundi le taux de 980,50 francs congolais pour le dollar. Chez les cambistes, un dollar se changeait à 920 voire à 900 francs congolais selon le milieu, tandis qu'au marché de Kadutu, un dollar se négociait entre 950 et 980 francs congolais. C'est un reportage que Jean Kassami nous avait proposé lundi.
Les plaintes recueillies auprès de quelques habitants rencontrés dans les rues de Bukavu attestent la gravité de la crise économique accentuée par la hausse du taux d'échange.
Les frais académiques, on nous envoie de l'argent au village, mais en arrivant à l'école, on ajoute d'autres choses à un taux là élevé.
Pour les produits vrais, c'est la même chose.
Les choses que vous pouvez acheter à un dollar, par rapport au taux de dollar, l'argent ne convient plus à ce que vous devriez arriver à acheter dans le marché.
Un article qui coûtait 900 francs, ça revient à 1000 francs, donc ça perturbe le coût de vie dans le ménage.
À qui profite une telle situation? Le politologue Adrien Zawadi et acteur de la société civile pense que la classe politique y joue un rôle moins négligeable.
Simplement, je dois dire que cette hausse des prix, à premier niveau, ça profite aux opérateurs politiques qui sont aussi à la fois des opérateurs économiques dans notre pays. Beaucoup de dirigeants sont pour la plupart des actionnaires dans les institutions de microfinance, soit des actionnaires dans d'autres entreprises.
L'association des cambistes de Bukavu s'interroge pourquoi la direction provinciale de la Banque centrale du Congo ne publie plus le communiqué radiodiffusé pour informer le public sur l'évolution quotidienne du taux d'échange. Basseme Bengeya, président de l'association.
Il y a quelques banques d'ici chez nous qui y arrivent même à 100. Maintenant, aujourd'hui, la banque ne communique rien.
La direction de la Banque centrale de Bukavu espère que les 50 millions de dollars injectés dans le circuit par la Banque centrale du Congo à Kinshasa vont aider à stabiliser les taux d'échange qui fait grincer les dents à la population. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
De Goma, rendons-nous à Kalemie, dans la province du Tanganyika. La production des unités de petites et moyennes entreprises a sensiblement baissé et en cause l'arrêt bientôt un mois de la centrale de Bentera qui fournit de l'électricité dans cette zone. Dans la ville, les activités artisanales sont les plus touchées. Reportage signé François Xavier Mibé.
Stanislas Kakuji est un habitant du quartier de la mission non loin de l'hôpital général de Kalemie. Stani fabrique bientôt 5 ans du savon artisanal. Depuis la coupure de l'électricité de la SNEL, Stani voit sa production affectée.
Pour moudre un sac de 100 kg de noix de palme, c'était au prix de 7000 francs congolais. Actuellement, ça devient 15000 francs congolais. Et il y a une carence aussi d'huile de noix de palme. Pour avoir un bidon seulement, ça devient à 40000 francs congolais.
La paralysie que déplore Stani touche plusieurs autres producteurs artisanaux dans la ville. C'est aussi le cas de Meunier. Les moulins ont arrêté de tourner au maximum, rendant difficile la vie des ménagères. Sylvie Saïdati.
Auparavant, c'était à 700 francs, mais aujourd'hui, ça a fait 1000 francs. On n'a pas le choix parce que pour manger, il faut toujours moudre notre farine au moulin de mazout.
Ceux qui savent tourner encore au mazout parlent d'une situation insoutenable. À l'image d'Adolphe Kalopa, qui travaille dans une menuiserie artisanale.
Avec le groupe électrogène, il y a trop de problèmes. D'abord, il y a le carburant, le chauffage aussi du dynamo. Mais pour le moment, le délai est élastique. Il y a un manque à gagner.
Du côté de la SNEL, rien ne rassure encore le retour de l'électricité d'ici 4 petits matins sur la ville. Kalemie, François Diabemibé, Radio Kapi.
Et nous allons terminer ce panorama économique par Kinshasa, par le marché de change. La pression a repris quelques jours. La pression a repris de plus belle sur le taux de change quelques jours après l'injection par la Banque centrale du Congo de 50 millions de dollars américains sur le marché. Cette injection avait favorisé une accalmie autour de 1000 francs congolais pour le dollar pendant près d'une semaine avant de remonter jusqu'à 1050 francs congolais pour le dollar en cette fin de semaine à Kinshasa. Le taux officiel de la Banque centrale, lui, est de 985,88 francs congolais pour le dollar en cette fin de semaine. Cette fluctuation du taux de change a eu des répercussions haussières sur les prix des biens de première consommation, cela aussi bien à Kinshasa que dans l'arrière-pays. Messieurs, dames, et c'est la fin de Panorama économique. Tout le plaisir était pour nous de vous savoir nombreux à l'écoute de cette émission que je vous convie de retrouver sur la toile www.radioocapi.net. Vous avez des remarques, des suggestions, écrivez-nous à echo@radioocapi.net. Dieudonné Nyangasa à la mise en onde. Daniel Tambizoni devant le micro vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine, 18h15, Écho d'économie, et le samedi prochain dans Panorama économique. Très bonne fin de semaine à toutes et à tous.